savourer nos différences.
Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature et qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Vous y êtes les bienvenus. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue. Aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Aujourd'hui, nous fêtons le printemps. L'occasion est donc toute choisie pour parler de ces magnifiques bulbes dont la floraison nous offre un feu d'artifice coloré dans les pelouses. Notre plante invitée est le muscari, dont le bleu intense de ses grappes nous revigore les yeux et nous communique une énergie contagieuse. Au programme de cette émission, l'interview exclusive de Charles Adenau, directeur général adjoint des établissements Ernest Turc à Brin-sur-Lothion. Vous retrouverez Karine dans la chronique Le bonheur est dans les simples pour nous parler des vertus du muscari. Mais avant cela, commençons cette émission par une introduction printanière. Au Japon, chaque saison est l'opportunité de se reconnecter à la nature par des références poétiques, comme le flamboiement des feuilles à l'automne ou la neige hivernale. Le printemps s'exprime par la floraison des cerisiers, dont les fleurs se nomment sakura. Les Japonais célèbrent à cette occasion l'amour, retrouvent le goût des saveurs printanières, observent le jaillissement des bourgeons. Outre la cuisine, leur identité culturelle se retrouve dans des poèmes courts appelés haïku, dont la paternité est attribuée au poète du XVIIe siècle, Basho Matsuo. La rédaction de ces poèmes est très stricte et obéit à certains codes, comme la référence aux saisons. Il existe ainsi un dictionnaire des termes ou expressions permettant de faire le lien avec une saison. Au fil du temps, la créativité humaine l'enrichit de nouvelles expressions en lien avec un élément météorologique, une plante ou un animal. Malheureusement, le dérèglement climatique affecte grandement le rythme immuable des quatre saisons japonaises et perturbe les cycles naturels. Un vrai défi à relever pour les Japonais, pour qui la symbolique des saisons est un marqueur identitaire. Pour les soutenir dans cette épreuve, je vous propose de partager quelques-uns de leurs plus beaux haïkus dédiés au printemps tout le long de cette émission. Écoutons quelques haïkus dédiés au printemps en préambule. De printemps. Le sang de la forêt coule dans mes veines. Grand soleil de mars. Le printemps parfume mon cœur. Les muscaris sont originaires du pourtour méditerranéen montagneux, dans un périmètre recouvrant la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, l'Arménie, le Caucase et le nord de l'Afrique. Cette capacité à se développer en altitude en font des plantes rustiques, très résistantes au froid, pouvant atteindre jusqu'à moins 25 degrés Celsius. En Anjou, où ils se sont acclimatés facilement, ils poussent spontanément en lisière de bois, car ils s'accommodent volontiers de l'ombre et du manque d'eau. Issus de la famille botanique des asparagacées, les muscaris sont des plantes à bulbes vivaces et forment au début de leur végétation des plantules dotées d'un seul cotylédon. Ils font ainsi partie du groupe beaucoup plus vaste des monocotylédones dont nous avons précédemment parlé lorsque nous avons présenté le chien d'an notamment. Le groupe des muscaris comprend une quarantaine d'espèces, dont le muscari d'Arménie, qui est à l'origine des nombreux cultivars horticoles plantés dans de nombreux jardins, et le muscari à toupet vivace qui colonise les talus ombragés d'Écuyer. le cycle des muscaris s'est calé sur celui des climats rudes montagneux d'où ils sont issus. Ils passent donc tout l'hiver endormis et retranchés dans leurs bulbes chargés de réserves nutritives, destinées à la reprise de végétation. Sous nos latitudes, au climat plus tempéré, le feuillage émerge sous forme de touffes de feuilles linéaires et charnues au vert sombre. Les hivers étant de moins en moins froids, il leur arrive d'émerger dès l'automne, voire de passer tout l'hiver au stade feuillu. Les bouquets de feuilles de 10 à 20 cm apparaissent comme des ponctuations dans la végétation. Puis, dès février, entre 3 à 5 tiges florifères, dépourvues de feuilles, se dressent fièrement et brandissent leurs épis bleus si reconnaissables. Les inflorescences bleues des muscaris d'Arménie sont à l'origine de jolis surnoms, comme jacinthe de grappe, raisin bleu, muscari raisin, décliné en version anglo-saxonne en grape hyacinth. Vous pardonnerez mon accent anglais détestable. Les muscari atoupés ou muscari chromosomes, que l'on retrouve spontanément dans nos fossés, nos vergers et nos prairies, portent des inflorescences gracieuses et rigolotes car elles sont surmontées d'une touffe de filaments violets dressés comme une houppette. Ces premières fleurs printanières, si reconnaissables, ont inspiré d'autres surnoms tout aussi charmants, tels muscari chevelu, ayatoupé, pénitent bleu ou encore oignon de serpent. Certains de nos adhérents au plantis lui trouvent un côté punk, d'autres une allure de martien à tentacules. Comme quoi la nature est un excellent moyen de stimuler notre imagination. La touffe dressée au sommet de ce muscari comprend uniquement des fleurs stériles dont la fonction essentielle est d'attirer les insectes, un peu comme une enseigne colorée. Les fleurs fertiles sont-elles regroupées en grappes juste au-dessous. Après fécondation, les fleurs séchées libèrent de minuscules graines noires qui donneront naissance à de nouveaux bulbes. Seules les espèces sauvages portent des fleurs au parfum fort et musqué. Un parfum qui a donné son nom au muscari qui provient du latin muscari. Elles attirent de nombreux butineurs qui permettront la formation de graines plus ou moins fertiles selon qu'ils soient sauvages ou non. À l'issue de la floraison, chaque muscari produit aussi de nouveaux bulbes qui permettront de survivre pendant la sécheresse hivernale. La multiplication végétative est le principal mode de reproduction. Et s'il se plaît à un endroit, il se répand spontanément dans les jardins et vagabonde volontiers où cela lui chante. Pour évoquer leur production par les humains, il est temps de retrouver l'interview de Charles Adenau, directeur général adjoint de l'entreprise angevine Ernest Turc, basée à Brun-sur-Lothion, productrice de bulbes à fleurs, graines potagères et florales. Pour nous mettre l'eau à la bouche avant de l'écouter, je vous partage quelques nouveaux poèmes haïku dédiés aux plantes à bulbes. Première jonquille, savourez les derniers nombrils de Vénus. Parfum de jacinthe, le printemps dans la maison. Billet d'amitié, deux tulipes se touchant les pétales. Bonjour Monsieur Adenau, vous êtes directeur adjoint des établissements Ernest Turc, situés à Brun-sur-Lothion. C'est une entreprise a priori qui est bien connue des Angevins et donc qui a pour activité de produire des bulbes à fleurs et des semences florales et potagères. Et donc, en préambule de cette interview, je voulais vous me disiez un petit peu comment était née cette entreprise et puis quelles activités elle conduit aujourd'hui sur le territoire angevin.
Ok, merci. Bonjour à vous. Alors effectivement, pour la société turque, on peut parler d'une vraie saga familiale, puisque c'est la famille turque qui est à la tête de la société depuis plus de 110 ans, en tout cas à Angers, mais c'est surtout historiquement des descendants des colporteurs de l'Oisans, donc ces premiers commerciaux qui diffusaient la biodiversité depuis les Alpes aux quatre coins du monde. Les colporteurs de l'Oisans, on en a retrouvé à New York, au Panama, en Amérique du Sud ou en Russie. Nous, on a des traces de la famille turque qui ont vendu des graines à la cour de Russie à l'époque. Donc depuis maintenant 1912, l'entreprise est implantée sur Angers. Et effectivement, notre métier, c'est vraiment d'être producteur de bulbes à fleurs, principalement le dahlia, le cana, l'alstroemer, l'agapanthe et le lys.
Et donc, l'activité horticole, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme la mode. Il y a des créations, des nouveautés pour un peu inspirer aussi les jardiniers. Et donc, comment se passe pour la partie bulbe à fleurs, cette création variétale?
Alors, effectivement, on peut parler de mode. Alors, la différence de la mode, c'est que nous, on n'a pas deux saisons qui sont été-hiver. On a bien deux saisons, mais automne-printemps. Pour raconter un petit peu la création variétale, nous, on se fixe chaque année des objectifs en fonction des tendances marché. Donc, par exemple, pour les dahlias, on peut avoir une demande de créer en ce moment des dahlias bâles. Donc, c'est des dahlias qui ont vraiment une forme ronde au niveau de la fleur. Une fois qu'on a cet objectif-là, on va identifier dans notre collection des géniteurs qui répondent à ces caractéristiques. Et puis, on va les planter de manière assez dense, loin de tous nos autres dahlias. Et une fois qu'on les a plantés, on va le laisser faire la nature. Les abeilles vont faire un merveilleux travail de croiser tous les pollens. Et de là, on va venir récolter les graines. Une fois qu'on a récolté les graines, on va pouvoir les trier et puis garder celles qui nous paraissent les plus importantes. Et une fois qu'on les a semées, on va pouvoir les observer. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une micro-parcelle, on peut récupérer jusqu'à 4000 graines. La réalité, c'est qu'on va en planter 2000 une fois qu'on a fait le tri. Alors, si ça se trouve, la superstar qu'on cherchait était dans les 2000 qu'on achetait. La bonne nouvelle, c'est qu'on le sait pas. Et puis, dans les 2000 autres, on va donc les semer, les observer. En général, en année 1, sur 2000 graines plantées, on va en garder une cinquantaine. La réalité, c'est que nous, entre le moment où on observe une plante la première fois et le moment où on va la commercialiser, il va se passer 5 ans. C'est 5 ans d'observation. Et puis, ça nous permet aussi de construire un volume, puisqu'en année 1, on a une et une seule plante. Et on n'est pas dans une usine où on peut fabriquer à l'appel des fleurs. Faut laisser le temps à la nature de la reproduire et d'observer que les caractéristiques de la plante originelle qu'on a observée sont bien également présentes sur cette descendance.
En fait, dans cette émission, nous parlons du muscari. Et le muscari fait partie des plantes commercialisées par l'entreprise. Donc,
alors, le muscari, c'est effectivement une de nos cultures sur notre exploitation bretonne. Ce qui est intéressant, le muscari, c'est que d'abord, c'est un bulbe qui est naturalisable, c'est-à-dire qu'il va se réensemencer tout seul. C'est-à-dire que si vous le mettez dans un parterre, assez vite, en fait, le parterre va grossir. Et cette notion de bulbe naturalisable, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui est de plus en plus important pour nos clients, où on n'est pas sur une logique de « je plante quelque chose, il va falloir renouveler les années d'après ». Là, il va vraiment rester en place. C'est un bulbe qui est pas fragile, donc qui est facile comme tout à réussir au jardin. On peut le mettre en avant de massif. Il va très bien résister le froid parce qu'il va supporter du moins 20, moins 25 degrés. Et il supporte bien la sécheresse, tout simplement, puisqu'il est plus en fleur au moment de des périodes les plus chaudes. Naturellement, on va plutôt le trouver dans des sous-bois, donc il va bien aussi dans des zones d'ombre, mais il supporte bien le plein soleil. Globalement, on l'a en fleur. On est à peu près du mois de mars jusqu'au mois de mai pour les variétés les plus tardives. Non, c'est vraiment un bulbe qui est facile. Il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est de les mettre dans des sortes de coupoles où on va les mettre les uns à côté des autres avec du terreau juste à fleur des bulbes. Et en fait, on va vite pouvoir se faire des compositions de terrasses, de balcons qui vont être très simples à réaliser et qui amènent tout de suite une touche de couleur très tôt dans la saison. Ça, c'est l'autre avantage du muscari, c'est qu'il intervient tôt dans la saison. Les bourdons adorent le muscari et c'est quelque chose qui va amener tout de suite de la couleur au jardin tôt dans la saison et donc va faciliter le travail des pollinisateurs dans le jardin dès le début de la saison.
Donc, j'ai découvert en arrivant, parce que c'est gentil de nous avoir accueillis sur le site de l'entreprise turque, et donc de découvrir que les dahlias étaient comestibles.
Tout à fait. Voilà. Et pour la petite histoire, le dahlia a été introduit en France, en Europe en tout cas, à peu près au même moment que la pomme de terre. Et il y a eu des discussions à l'époque à la cour du roi pour savoir est-ce qu'on mettait la pomme de terre ou le dahlia en avant pour les cultures en Europe, enfin en tout cas en France pour ce cas-là. Ils ont choisi la pomme de terre. Je pense qu'ils ont fait un bon choix pour le côté gustatif. Mais oui, effectivement, les dahlias se mangent. On peut faire des chips, on peut faire des salades. Enfin, il y a pas mal de choses à tester avec.
Eh ben, c'est sur ce bon mot de la fin de dégustation. Merci à vous pour
merci beaucoup.
Cette interview.
Ouais.
Les nombreux cultivars de muscari d'Arménie proposent tout un éventail de teintes, allant du bleu le plus sombre au plus clair pour évoluer vers le mauve et le violet, puis bifurquer vers le blanc, le lilas et le rose. Toutes ces floraisons multicolores égayent joyeusement pelouses, gazons inutiles et sans charme. Leurs bulbes de petite taille fleurissent sans problème au pied des arbres caducs dont le feuillage se déploie plus tard. Avec les jacinthes, les narcisses, les crocus et les tulipes, les muscaris plantés contribuent à la biodiversité et participent à l'acceptation des autres vagabondes, injustement tondues au printemps. Car toutes ces fleurs sauvages en profitent pour s'inviter parmi les bulbes et ravir les papilles des butineurs. Les jardiniers impatients doivent ronger leurs freins et remiser la tondeuse. Ils doivent en effet patienter jusqu'à ce que le feuillage et la floraison se terminent et permettre ainsi le renouvellement des bulbes de façon à assurer leur future floraison l'année suivante. Je préconise souvent ce moyen au service espace vert, accro à la tondeuse, pour décaler les premières tontes. Outre que cette astuce permet aux autres vagabondes de fleurir, elle contribue à réduire le nombre de tontes en saison. Car, passé le début mai, la repousse de gazon faiblit. La plantation en ligne dans les gazons permet de maintenir les tontes. Donc c'est moins intéressant, il vaut mieux les planter disséminées partout. Plantés le long d'une allée, ils soulignent la beauté d'une courbe et peuvent ainsi guider les personnes souffrant d'une mauvaise vue. Ils agrémentent aussi joliment les rocailles et les prairies. Allez, il est temps de faire une pause en chanson avec Emma Peters, dans le titre Magnolia que je viens d'écouter sur Radio G dans ma voiture en venant au studio d'enregistrement. Un titre en souvenir à Claude François qui a rythmé mon enfance et mon adolescence. Un titre pour évoquer les splendides floraisons de Magnolia qui illuminent le jardin du Plantis tout le mois de mars pour annoncer le printemps. Mais auparavant, je voudrais partager avec vous quelques nouveaux haïkus. Première tonte. Me pardonneront-elles les pâquerettes ? Adieu le froid. Autour de moi, la danse des bourdons.
Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et des rondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Lui ressemble quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure là dans le cœur des arbres en fleurs. Des magnolias par centaines, des magnolias comme sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Lui ressemble quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure là dans le cœur des arbres en fleurs. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire.
Comme la plupart des plantes sauvages, le muscari n'a pu échapper longtemps au regard acéré et à l'appétit des humains, comme en témoignent les exemplaires trouvés dans le tombeau d'un homme de Néandertal situé au nord de l'Irak. L'usage alimentaire du muscari à toupet est en effet attesté depuis l'Antiquité, que ce soit en Égypte, en Grèce, en Turquie ou en Italie. Sa récolte s'effectue dans la nature, car ce muscari sauvage n'a jamais pu être domestiqué. En Italie, où la géographie montagneuse favorise le développement spontané de cette plante, la consommation de bulbes est une tradition ancienne. Malgré la présence de molécules toxiques, pour le foie, en grande quantité et à long terme, les Italiens en raffolent. En consommer, pour eux, a une valeur patrimoniale forte. Ainsi, les immigrants italiens aux États-Unis en ont apporté de grandes quantités, il paraît des bateaux entiers, pour conserver le lien culturel avec leur pays d'origine. Nommé Lampacioni, Lampagione ou Cipollaccio, les bulbes sont toujours consommés en Italie, dans l'huile, comme les tomates séchées. Comme quoi, les plantes sauvages servent aussi à relier les humains entre eux et à construire leur identité en lien avec leur territoire et leur géographie. Pour nous parler de muscari, il est temps de retrouver Karine dans la chronique Le bonheur est dans les simples.
Le muscari est une bien belle plante qui pousse dans nos campagnes et qui pointe le bout de son nez à partir de mars, avril. En tout cas, moi, sur ma parcelle agricole, puisque je suis paysanne distillatrice de plantes médicinales. Et avec ses petites couleurs violettes, ça annonce vraiment le printemps. Les semis du muscari se font à partir de septembre-octobre, pour ceux qui les cultivent, mais c'est plutôt assez rare. Et elle passe très bien son développement racinaire et puis aérien dans des zones plutôt froides et tempérées. Elle est originaire d'Europe, notamment. C'est dans la Grèce antique que le muscari à toupet était considéré comme une plante sacrée et qui symbolisait l'amour et la fertilité. Aujourd'hui, on la connaît quand même beaucoup, beaucoup moins. Et puis, en plus, c'est une plante qui est un petit peu menacée. Donc, que je déconseille quand même de... Même si elle a ses propriétés médicinales, je déconseille quand même de l'utiliser pour préserver l'espèce. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le muscari a été utilisé à des fins traditionnelles, médicinales, dans certaines cultures. Et selon certaines pratiques, qu'on lui attribue pas mal de propriétés, comme les propriétés diurétiques. Diurétiques, c'est-à-dire de drainer l'eau du corps et puis d'augmenter l'augmentation des urines. Donc ça peut être super utile pour éliminer toutes les toxines du corps, en détox printanière par exemple. elle est aussi laxative. La muscarie a des propriétés qui peuvent aider donc à soulager les constipations. Donc ce côté laxatif et puis antispasmodique aussi, qui est utilisé pour réduire les spasmes musculaires et soulager les crampes. En littérature, il n'existe pas beaucoup d'informations sur les vertus de cette plante, d'autant plus que pour les mêmes symptômes, il existe tout un cortège d'autres plantes qui sont plus connues et dont les vertus sont avérées, utilisées par la tradition, qui ont été transmises de manière oralement ou bien transmises de manière écrite et qui pourraient produire les mêmes effets que le muscari. Et l'idéal est de consulter un herboriste ou un phytothérapeute si vous voulez obtenir plus de conseils. Mais en tout cas, moi, je déconseille de l'utiliser, plutôt de l'admirer si vous avez la chance de l'avoir en campagne. Elle a un usage aussi culinaire, mais ça va être plutôt en Italie, dans la région des Pouilles, notamment, où elle est utilisée comme un oignon. Et on la nomme lampassione, lampion, traduction française, si je traduis bien. Et on retrouve en vente ce muscari à toupet dans des bocaux sur les marchés italiens. On le retrouve aussi dans la région de Basilicate. Et les fleurs à muscari à toupet qui sont comestibles peuvent être utilisées pour garnir les salades et les plats sucrés. Elle a un léger goût amer et on peut manger son bulbe.
Dans le langage des fleurs, le muscari est associé à l'engagement amoureux. L'offrir à son âme sœur est une attention touchante dont le bleu éclatant révèle l'intensité de ses sentiments. Le muscari égaie volontiers les bouquets printaniers. Pour conserver plus longtemps les tiges florales, il faut bien veiller à couper les tiges à 45 degrés et ne pas les installer dans une pièce trop chauffée. À proximité du regard, les amateurs d'aquarelle prendront ainsi plaisir à saisir l'instant coloré de ces floraisons bleues. Pour terminer en poésie cette émission et changer des à-coups, voici ce poème printanier de Néré Beauchemin, né au XIXe siècle, intitulé « Flore d'aurore » et tiré de son recueil « Les floraisons matudina ». Comme au printemps de l'autre année, au mois des fleurs, après les froids, par quelques belles matinées, nous irons encore au bois. Nous irons encore sous bois. Nous y verrons les mêmes choses, le même glorieux réveil et les mêmes métamorphoses de tout ce qui vit au soleil. Nous y verrons les grands squelettes des arbres gris ressuscités et les yeux clos des violettes à la lumière palpitée. Sous le feuillage vert tendre, les tourterelles des buissons, ce jour-là, nous feront entendre leur lente et molle chanson. Ensemble, nous irons encore cueillir dans les prés au matin de ces bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym. Nous y boirons l'odeur subtile, les capiteux arômes blonds que dans l'air tiède et pur distille la flore chaude des vallons. Radieux, secouant le givre et les frimas de l'an dernier, nos chers espoirs pourront revivre au bon vieux soleil printanier. En attendant que tout renaisse, que tout aime et revive un jour, laisse nos rêves, ô jeunesse, s'envoler vers tes bois d'amour. Chère idylle, tes primevères éclosent en toute saison. Elle nargue les froids sévères et perce la neige à foison. Éternel renouveau, tes sèves montent même au cœur refroidi et tes capiteuses fleurs brèves nous grisent comme au temps jadis. Oh oui, nous cueillerons encore, aussi frais qu'à l'autre matin, ces beaux bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym. Il est temps de nous quitter, cette émission est terminée. Vous retrouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Bien entendu, vous pouvez écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission sur radio-g.fr. Vous pouvez même aller sur les deux pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Christelle et moi et toute l'équipe du Plantis vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante. À très bientôt.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr